Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Une émission que nous avons enregistrée le 29 septembre dernier au château du Clos de Vougeot à l'occasion de la 12e édition de Livre en Vigne. Et je suis heureux de l'accueillir devant ce micro parce que je le rencontre à Livre en Vigne depuis plusieurs années. C'est Erwan Larère qui va nous accompagner jusqu'à midi. Bonjour Erwan Larère.
Bonjour cher ami.
Erwan Larère, combien de romans à ce jour ?
Eh bien, vient de sortir mon 7e roman aux éditions Kidam qui s'appelle « Pourquoi les hommes fuient ?»
Avec le point d'interrogation, vraie
avec
question.
Avec le point d'interrogation. On s'est posé la question d'ailleurs avec mon éditeur, est-ce que avec ou sans ponctuation ? Et on s'est dit peut-être que sans ponctuation, ça faisait un petit peu manuel de la vie moderne. On va vous expliquer pourquoi les hommes fuient, on va vous expliquer ce qu'ils viennent de Mars ou de Vénus. Donc là, on est dans un roman et on a mis le point d'interrogation, oui.
Et puis c'est une question qui reste assez ouverte, de même que la fin du roman reste assez ouverte également.
Oui, la fin du roman est... Alors elle est pas grande ouverte, mais elle est un peu ouverte. Je trouve ça très important de laisser de la place au lecteur dans un roman. Il faut faire confiance à l'intelligence du lecteur, il faut faire confiance à son imagination. Et en tant que lecteur, bon, je lis énormément, je déteste quand un auteur m'enferme dans son histoire, qu'on ne peut pas respirer, que tout nous est dit, que tout nous est montré. Donc oui, une fin. Alors c'est une fin à l'histoire. Et comme je le dis dans un de mes romans, dans Autogenèse, mon second roman, il y a un chapitre qui s'appelle « Toute fin est un début ».
Alors, Autogenèse, c'était chez Michalon en 2012. Et puis, il y a deux ans, il y a eu alors un livre dont tu te serais peut-être bien passé. C'est le livre que je ne voulais pas écrire. Tu peux rappeler le contexte et les conditions qui ont entouré l'écriture de cet ouvrage ?
Oui, je peux, puisque nous avons un petit peu de temps devant nous, parce que c'est pas... Ça s'explique pas comme ça en 30 secondes. J'ai été blessé au Bataclan, donc le 13 novembre 2015. Et puis c'était pour moi un événement privé, hein. C'est quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie personnelle, pas de quoi en faire un roman. Sauf que grâce à des amis, à des discussions, j'ai très vite compris que j'avais pas été le seul à avoir été blessé ce jour-là. Je veux dire, toute la France a été blessée, et peut-être même plus largement toute une civilisation occidentale. Et que en tant que romancier, c'était peut-être mon devoir d'essayer de voir ce que la littérature avait à dire. Alors c'est un petit peu prétentieux de ma part peut-être, mais ce sont des amis écrivains qui m'y ont poussé, et moi je n'ai pas la prétention d'avoir réussi, j'ai la prétention d'avoir essayé de faire s'élever cette voix littéraire autour de cet événement, une voix qui serait pas une voix médiatique, qui serait pas une voix philosophique, qui serait pas une voix sociologique, qui serait pas le discours du café du commerce, et qui serait surtout pas un témoignage. Parce que pour ça, bah, y a des médias. Et moi, je voulais faire, je me moque de moi-même dans le livre, un objet littéraire. C'est-à-dire, est-ce que la transcendance que permet la littérature, j'emploie des gros mots, hein, je suis désolé, mais pour moi, la littérature, c'est extrêmement sérieux. C'est une transcendance, on doit questionner le monde dans lequel on est, les valeurs qui nous entourent, mais ça doit dépasser l'ici et maintenant, ça doit dépasser nos petites vies, nos petites contingences, et ça doit pouvoir passer les siècles. Donc est-ce qu'on pouvait écrire, faire de la littérature à partir du Bataclan, qui est quand même un événement qui pose des questions centrales à notre monde? Comment trois gamins peuvent prendre une Kalachnikov et aller faire un massacre? Je veux dire, c'est une question incroyable. C'est une question pour un romancier qui est... Et puis après, le romancier, il peut aussi s'infiltrer dans des interstices comme qu'est-ce qui se passe pendant 20 minutes dans cette voiture alors qu'ils sont garés devant le Bataclan? Parce que ce sont des monstres. Certainement, mais avant d'être des monstres, c'est des êtres humains. Donc ces quatre gars dans cette voiture-là, est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que ça sent mauvais? Est-ce qu'ils ont envie de se barrer? ce livre que je voulais pas écrire, c'est juste que je n'avais pas pensé à l'écrire. Parce que pour moi, je fais pas d'autofiction. Et j'aurais préféré ne pas avoir à l'écrire, bien évidemment. Donc voilà, j'étais un petit peu long, j'espère que j'ai été clair, mais c'est vrai que c'est une petite parenthèse dans ma bibliographie. Et même si moi, je l'appelle roman.
Et c'était déjà chez Kidam Éditeur.
C'était chez Kidam, ça n'aurait pu être que chez Kidam, parce que... J'étais encore allongé dans mon lit d'hôpital avec des perfs partout, que j'avais quand même des éditeurs qui m'appelaient pour me dire « Bon, Coco, si t'as envie de faire un livre, on saura mettre les moyens, quoi. » Enfin, en sous-texte.
Un roman qui marquera en tout cas à travers ce contexte dramatique. D'ailleurs, dans « Pourquoi les hommes fuient », bon, il y a un écrivain... de la maturité qui rencontre ta jeune héroïne. D'ailleurs, il y a un grand contraste entre les deux. Et il y a cette question, quels seront les classiques de demain ? Peut-être que tes romans feront partie des classiques de demain. Tu y penses parfois ?
C'est
à
bien...
la postérité de
évidemment,
tes textes ?
Bien sûr. Ce serait bien présomptueux de ma part de penser que mes romans feront partie des classiques de demain. Mais j'écris... pour que mes romans fassent partie des classiques de demain. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais comme la littérature est un idéal pour moi, c'est quelque chose que je cherche à atteindre sans cesse. C'est au firmament, là, c'est là-haut. Et moi, je travaille pour ça, mais je serais bien, encore une fois, présomptueux de penser que mes livres seront des classiques.
Arrêtons-nous aujourd'hui donc sur ton dernier roman, Erwan, Pourquoi les hommes fuient. La quatrième de couverture dit d'ailleurs que c'est un texte up-tempo, énergique et moderne, entre intime et sociétal. Alors, posons un peu le cadre, l'intrigue de ce qui ressemble à une enquête, au parcours d'une jeune femme qui, et ça me semble légitime, éprouve le besoin de connaître son père qui l'a abandonnée avec sa mère lorsqu'elle avait 4 ans. Alors parlons de Jane, l'héroïne au cœur de ton roman, Erwan.
Oui, Jane, c'est une voix à laquelle je me suis attaché en fait au fil de l'écriture, parce que Jane, au départ du projet, ne devait pas être le personnage principal, ne devait pas être la voix principale de ce roman. La voix principale du roman, c'était l'ermite. C'était d'où le titre, hein, Pourquoi les hommes fuient. On avait ce personnage qui s'est retiré du monde, qui vit un peu dans la forêt, comme ça, en autosuffisance, avec très peu de contact avec ses semblables. Et c'était lui la voix principale. Je voulais vraiment travailler ça, quoi. Comment est-ce qu'on peut se retirer du monde et quelles conséquences ça a. Et puis la voix de Jane petit à petit s'est imposée et son rythme, son rapport au monde et ça m'a excité en tant que romancier d'écrire, d'avoir ce personnage qui n'est pas connecté au livre et à la civilisation du livre et qui est connecté à autre chose, à cette civilisation qui est plutôt celle des écrans.
Voilà. Le téléphone portable, tous ses copains font d'ailleurs aussi des recherches pour elle. Alors, il est question du deep web. Et puis aussi, il y a tout le vocabulaire de cette jeunesse. Hein. Jane a 25 ans.
21.
Ouais. Elle veut devenir comédienne. Elle ne sait pas d'ailleurs, quand elle se trouve chez ses grands-parents, les grands-parents regardent La Grande Vadrouille, elle ne sait pas qui est Louis de Funès, elle ne sait pas qui est Bourvil. Quand elle rencontre l'écrivain, cet écrivain très intellectuel qui la drague gentiment d'ailleurs, qui essaie de la séduire, mais elle n'est pas du tout réceptive à la finesse spirituelle, à l'intelligence de l'écrivain.
Et puis elle dit même, je comprends pas comment on peut attendre des plombes pour avoir un autographe sur un livre, c'est complètement absurde. Donc pour elle, c'est pas du tout son monde, et elle est dans une sorte de présent perpétuel comme une grande. Alors je sais pas, je vais pas faire des généralités, hein, j'aime pas ça, mais c'est quelque chose que j'ai constaté aujourd'hui, ouais, que les jeunes, beaucoup de jeunes, sont dans un présent perpétuel qui est celui des écrans. Enfin, si vous regardez un livre, vous êtes dans l'horizontalité, vous pouvez le feuilleter, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez vous arrêter. C'est votre rythme, la lecture, c'est votre rythme. À l'écran, le rythme de Facebook ou d'Instagram ou de c'est un défilement. Et vous pouvez très très peu revenir en arrière. Si vous y réfléchissez, essayez d'aller trouver un statut Facebook d'il y a 3 mois, 6 mois, 1 an. Essayez d'aller trouver un tweet d'il y a seulement 5 jours. Essayez. Donc vous êtes dans un défilement permanent d'actualité, d'information, de... Et moi, je suis pas moraliste, donc je critique pas. Je dis pas c'est bien, c'est mal, c'était mieux avant, la civilisation du livre, avec L majuscule. Je dis ça induit un autre rapport au monde pour cette jeunesse-là. Et moi qui ne suis pas de ce monde-là, mais qui suis romancier, j'essaye en tout cas, ça m'a excité, ouais. C'est quoi ce rapport à ce monde ? Comment est-ce qu'on vit quand on est comme ça dans le présent perpétuel ? Et j'avais envie aussi de parler de cette insécurité aussi des gamins d'aujourd'hui, parce que moi je suis encore d'une génération où on me disait « fais des études et des diplômes et t'auras un boulot ». C'était encore à peu près... c'était encore à peu près valable. Mais là, aujourd'hui, cette précarité, les gamins, enfin, en tout cas Jane, elle est dans la survie. Elle est dans la survie, donc elle vole un peu, elle fait un peu des petits jobs pour un traiteur. Mais elle doit survivre dans un monde hostile, hyper compétitif.
Elle est en colocation
parce qu'elle ne peut pas habiter toute seule, parce qu'elle n'a pas les moyens. Parce qu'aujourd'hui, bah, pour avoir un appartement, elle habite à Paris. Donc pour avoir un appartement à Paris, il faut 3 mois de fiches de paye, il faut des garants de partout. Donc voilà, Jane, elle est dans cette dynamique-là. Et en même temps, elle n'est pas malheureuse. Donc effectivement, elle a un lien avec le passé qui est assez fluctuant. Hein, on va dire, mais qui est même assez presque coupée, parce qu'elle est dans le présent permanent.
Alors, elle est à la recherche de ce père, et elle croit, au début, elle n'a que quelques éléments. C'est une enquête familiale, elle essaie de se rappeler ce que sa mère lui disait, il lui reste des propos.
Sa mère a lâché, ouais, par inadvertance, un jour, t'es bien une fille de musicien,
voilà.
Comme ça. Et sa mère est morte, ouais, quand le livre commence, sa mère est morte. Et c'est vrai que c'est tout à fait incidemment, en entendant un air, et d'ailleurs c'est Billy qui fredonne cet air, Billy qui est la mère de Marguerite, donc qui est l'héroïne d'un de mes romans précédents, hein, Marguerite n'aime pas ses fesses, donc on retrouve, j'aime bien comme ça faire de l'intertextualité avec moi-même, parce qu'en tant que lecteur j'aime ça quand je trouve ça chez des auteurs, quoi, de dire ah mais oui mais lui c'est le personnage qui était dans... Donc elle entend fredonner un air et... ça lui reste en tête et elle sait pas pourquoi et d'un coup elle se souvient que elle retrouve la chanson par hasard aussi et elle se souvient que c'est une chanson que sa mère refusait d'écouter, elle coupait la radio, c'était un tube qui passait beaucoup à la radio et que sa mère se refusait à écouter ce morceau
et qui a pour titre comme les autres et qu'elle entend dans un bar et là elle crie c'est mon père, putain le mec qui chante c'est mon père,
ouais.
Et là elle a vraiment le désir de savoir si son père est encore en vie,
ouais.
Et là, on rentre dans la naissance et l'existence d'un groupe qui a donné naissance, effectivement, alors à Joseph Sansa, qui est le chanteur, ouais. Leader, qui vit masqué, qui, ouais. Se...
Mais en fait, il y a deux guitaristes,
oui,
dans ce groupe d'origine. Il y a deux guitaristes qui s'appellent tous les deux Joe. Enfin, leur surnom, c'est Joe. Et qui sont les pères potentiels de Jane.
Joris ou Johan.
Voilà. Il y a un des deux qui a fait un tube sous pseudonyme de Joseph Samsa, donc encore un Joe. Mais donc voilà, il y a cette sorte d'enquête effectivement de Jane qui va retrouver. Mais en fait, le roman, c'est Jane qui s'ouvre au monde aussi. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est vraiment dans son monde, avec ses bandes avec lesquelles elle traîne, avec ses potes, avec ses colocs, ses petits boulots. Et à mesure qu'elle se lance à la recherche de son père, sur les traces de son père, petit à petit, le monde va venir à elle. Il va se passer des choses, elle va... Alors, pas vraiment ouvrir les yeux, mais elle va voir plus de choses. C'est comme si son champ de vision s'élargissait.
La réalité vient lui cogner le visage et l'esprit. Tout d'un coup, elle rentre un peu dans la vraie vie.
Elle rentre un peu dans la vraie vie. On peut voir ça comme ça, ouais. En tout cas, dans la réalité. Ouais. Et donc, ça va induire des réflexions et des rencontres par rapport avec ses grands-parents, qu'elle voyait toujours comme des espèces de vieux qui vivaient comme ça. Et du coup, elle va s'ouvrir aussi affectivement, je crois.
Et pour elle aussi, il s'agit de ne pas tomber. Parce qu'elle a un sentiment de culpabilité qui est fort.
Oui, elle a un sentiment de culpabilité. C'est sa mère lui a fait ressentir, peut-être sans lui dire clairement, mais elle a toujours ressenti que si son père était parti, c'était de sa faute. Et que si sa mère était malheureuse et n'avait pas retrouvé quelqu'un, c'était sa faute à elle.
Et en plus, vestimentairement, en termes d'allure, elle ne passe pas inaperçue.
Non, elle passe pas inaperçue et en même temps, c'est pas non plus, c'est pas la fille sur laquelle tout le monde se retourne. C'est une trajectoire dans la ville parmi d'autres pour moi. Hein. Elle est pas, Ouais, elle est pas si singulière que ça.
Sur les pères, alors c'est Billy qui évoque la paternité. Elle dit les pères, on veut s'en éloigner quand ils sont là et quand ils disparaissent, ils vous manquent. Alors c'est aussi la relation père-fille, une fille qui recherche son père. Pour nous les garçons, parfois aussi la relation père-fils peut être compliqué, c'est aussi très intéressant. Et puis ce regard aussi sur les couples, c'est ce que j'ai aimé, Erwan, je crois te l'avoir dit, lorsque Jane va rendre visite à ses grands-parents, un petit couple très sympathique, des gens simples, elle observe un couple vieillissant qui finalement reste ensemble parce qu'ils n'osent pas trop se séparer, enfin ils n'ont plus grand-chose en commun, c'est un peu la banalité du quotidien qui l'emporte. On regarde la télévision, on va faire les courses au supermarché local et on va boire l'apéritif au Balto avant de rentrer à la maison.
Ouais, bah alors...
Et ça ne l'intéresse pas, elle.
Non, mais elle a beaucoup d'indulgence pour ça. Et moi aussi, en fait. Parce qu'au nom de quoi est-ce que le quotidien devrait être toujours super excitant? Au nom de quoi il devrait se passer toujours plein de trucs? Au nom de quoi? C'est vrai, on est... Le rythme de nos vies, c'est extrêmement accéléré quand même. Il faut toujours être dans des choses passionnantes. Il faut faire des choses. Il faut faire. Est-ce que tu as fait le Maroc même? On fait des pays, tu vois. Il faut toujours être dans... Et pourquoi ne pas reprendre aussi de temps en temps un rythme un peu plus alangui? Pourquoi ne pas prendre le temps de la contemplation? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que le couple, ce soit toujours super excitant? Pourquoi est-ce que ça peut pas être aussi des fois un petit peu de tendresse, d'être bien ensemble, d'avoir ses habitudes ensemble? Je trouve qu'on est un tout petit peu sévère aussi avec... Est-ce que ça rend les gens plus heureux d'être dans cette vitesse permanente, dans cette excitation permanente? J'en suis pas certain. Je suis pas certain que les couples d'aujourd'hui, moi, mes parents viennent de fêter leurs 50 ans de mariage. Donc, bien sûr, on en discute. Ils me disent, bah oui, c'est pas tout ça, pas toujours été facile. Mais quand tu les vois ensemble, là, ils sont tellement beaux, ils sont tellement touchants, ils sont charmants, ils ont plein d'attention, ils s'aiment. Enfin, vraiment, il y a un truc très beau et très fort. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait tout le temps changer de partenaire? Pourquoi est-ce qu'il faudrait. Non. Donc, les parents de Jane, ouais, je trouve qu'ils sont... Alors, on peut les juger et dire, oui, c'est une petite vie de province, un peu étriquée. Mais moi, enfin, non, je trouve que c'est même joli. Ensemble, ils sont jolis et tout maladroits qu'ils sont et pas trop dans l'émotion, parce qu'il y a une génération aussi avant nous qui n'était pas trop dans l'émotion. On ne disait pas les choses, on ne s'exprimait pas. Je trouve que c'est beau la relation qu'ils ont avec Jane, le fait qu'elle lui mette des gâteaux tout pourris dans son sac le dimanche soir quand elle allait en pension, parce qu'elle s'est un peu occupée de sa petite fille, la grand-mère de Jane. Je sais pas, je trouve ça touchant, moi.
C'est Erwan Larrère qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre pour son dernier roman intitulé « Pourquoi les hommes fuient » chez Kidam Éditeur. On marque une première pause musicale parce qu'il est beaucoup question de musique dans ce roman. On aurait pu d'ailleurs faire une playlist de ce roman. Et on retrouve Erwan Larrère juste après la virgule musicale que nous vous offrons.
Yeah. sais pas danser, je sais pas m'oublier, je ne veux pas sortir.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Pourquoi les hommes fuient, Erwan Larère? Grande question au cœur de ton dernier roman chez Kidam Éditeur. Jane donc à la recherche d'un père qui aurait été une star rock. Un groupe de rock d'ailleurs qui a un nom très amusant, puisque c'est le groupe Charlotte Corday. Alors Charlotte Corday, quand on a un peu de culture historique, on sait qui est Charlotte Corday. Ce n'est pas une femme courageuse qui a osé faire quelque chose que beaucoup d'autres auraient aimé faire, mais elle l'a accompli. Alors pourquoi Charlotte Corday? C'est aussi géographique.
Non, Charlotte Corday, c'est pour une raison très simple, c'est que c'était le groupe de rock que j'avais quand j'étais gamin, quoi.
Authentique.
Oui, quand j'étais en terminale, on avait créé un groupe avec des copains, donc qui s'appelait Charlotte Corday, parce que j'adorais le prénom Charlotte. J'adore la Révolution, enfin c'est une période historique que je trouve extrêmement excitante. Et donc voilà, je trouvais ça assez romantique, le geste de Charlotte Corday. Alors ça se discute, hein, et j'avais 16 ans, donc Non, mais en plus, c'était très amusant parce que la première fois, Jane entend ce nom, donc le nom du groupe dans lequel son père aurait peut-être joué, ce groupe de punk des années 80 à Tours, et elle ne sait pas comment s'écrit Corday. Donc elle cherche sur Internet Charlotte Corday, C-O-R-D-E-T, elle essaye toutes les orthographes parce que ce n'est pas sa culture. Enfin, d'ailleurs, elle n'a pas de culture, elle n'a pas de culture historique, elle n'a pas de culture livresque, elle n'a pas de... Donc voilà, la genèse de ce nom, c'est juste parce que j'étais chanteur, enfin chanteur, je mets plein de guillemets, hein, du groupe Charlotte Corday quand j'avais 16 ans.
Enfin, au moins, c'était une saine occupation créatrice déjà.
Ouais, j'écrivais des paroles de chansons, mais j'écrivais déjà des poèmes à l'époque. Je me prenais vraiment pour un poète maudit. Mais parce que j'écris depuis que je sais écrire, en fait. J'écris des histoires, des poèmes, des chansons, j'écris tout le temps.
Alors, le roman laisse entendre aussi que ces groupes qui débutent de manière assez modeste et tout d'un coup qui montent, et là, ça suscite... Comment dire, peut-être des jalousies ou on se sépare parce qu'on veut faire une carrière solo et parfois c'est pas toujours glorieux, on met de côté ses belles valeurs et la camaraderie vole en éclats. Ça aussi c'est montré dans le roman. Et d'ailleurs tu fais dire que finalement un vrai groupe de rock c'est on transporte le matériel dans un van un peu rouillé, des sandwichs douteux, le pack de bière. Pour toi c'est cela, c'est pas le star system?
Oui, alors c'est tous mes romans, moi je me considère comme un romancier politique, mais politique au sens le politique, hein, c'est-à-dire la vie de la cité. Donc j'aime questionner le monde de manière large, mais aussi de manière intime. C'est les rapports qu'on a les uns avec les autres, les rapports donc qui peuvent être des rapports amoureux, des rapports amicaux, des rapports de couple. Et un groupe de rock... C'est vraiment quelque chose d'assez, symptomatique, parce que vous avez une micro-société qui s'est fondée sur des valeurs, parce que le rock c'est des valeurs de rébellion, c'est des valeurs de révolte. Donc vous avez voilà des gens qui ont décidé de travailler ensemble, enfin de créer ensemble au nom de certaines valeurs. Et effectivement, quand ça réussit. Eh ben, quid de ses valeurs? Ou quand ça commence à réussir, quid de ses valeurs? Donc, les deux Joe de mon roman, il y en a un qui dit, mais moi, je veux pas, justement, manger des sandwichs tout secs et boire de la bière tiède toute ma vie. Et l'autre qui dit, mais gars, le rock'n'roll, c'est ça, quoi. Et c'est cette énergie-là. Et on peut pas faire du rock confortablement. On peut pas faire du rock si on a une piscine, si on est dans des suites, dans des palaces, si on est ou alors on meurt jeune et on se noie à 27 ans dans la piscine du palace. Mais donc ça me permettait d'explorer des rapports humains en fait. Le rock n'est qu'un prétexte, la musique n'est qu'un prétexte, c'est parce que ça véhicule des choses fortes. Mais ce qui m'intéresse c'est le rapport humain entre ces deux Joe, celui qui choisit la voie du succès et celui qui reste,
qui n'a pas joué le jeu en fait.
Ouais,
du star système, ouais,
mais qui
était passé
temps,
à côté sans doute d'une très grande carrière.
Et qui, des années après, était gris, en fait. Donc, il se réfugie derrière, oui, mais moi, je suis resté pur, machin. Mais en fait, il le vit mal. Et l'autre qui a trahi ses idéaux le vit pas non plus forcément très bien. Enfin, il le vit bien, mais il est désagréable avec tout le monde. Il est donc voilà, c'était questionner un peu ces deux trajectoires, parce que je pense que ça parle à tout le monde. Là, on est sur un groupe de rock, mais si on s'arrête et qu'on fait le point et qu'on regarde un peu où on en est et en arrière, on se pose tous la question, est-ce que j'ai raté ma vie ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Est-ce qu'il est encore temps de prendre un virage? Est-ce qu'il est encore temps de... Donc voilà, encore une fois, le groupe de rock, c'est comme la quête du père de Jane. C'est aussi des prétextes à dire d'autres choses.
Et il est aussi question dans le roman de la possibilité que le père soit mort.
Ouais, bien sûr. Ouais. On sait pas trop, encore une fois, c'est un prétexte. Alors c'est important, hein, l'histoire est importante. Dans un roman, il faut qu'il y ait une histoire, mais c'est intéressant d'avoir moi j'aime bien avoir plusieurs trames narratives et plusieurs voix, les entremêler. Une phrase que j'aime beaucoup qui est de je sais plus de qui d'ailleurs. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois je le cite et à chaque fois j'oublie. C'est jouer avec le lecteur et non pas se jouer du lecteur. Et parfois on lit des romans et on sent que l'auteur se moque un peu de nous, genre ça va, le twist à l'avant-dernière page, genre le coupable c'était lui. Des fois il y a quand même des auteurs qui se moquent un peu de leur lecteur, tandis que jouer avec le lecteur, ça veut dire faire confiance à son intelligence, faire confiance à son imaginaire.
Oui, c'est ce que Montaigne appelait le suffisant lecteur.
Voilà, exactement. Et donc tu peux lui mettre des pistes, des fausses pistes, tu peux mettre du sous-texte, tu peux mettre du entre les lignes, et ça c'est excitant.
Alors, ce qui est aussi très excitant, c'est que c'est pas statique, parce que Jean se déplace, alors elle va à Tours, dans un bar, faire parler des témoins d'un concert célèbre de Charlotte Corday, 17 mars 1998, c'était au Bateau Ivre, ouais. Et là elle rencontre un directeur d'une radio locale, Radio Béton, qui lui montre des photographies, et là elle accumule les indices, les éléments, qui tout de même lui donnent la certitude que... Elle approche du but, quoi. C'est plus en plus chaud, quoi. Quand t'es chaud, t'es froid, là, ça commence à devenir chaud. Elle s'approche du but.
Mais ce qui était, je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais dans la vie, c'est le souvenir. On est persuadé qu'on a vécu un truc. On est persuadé que ça s'est passé de telle façon. Mais en fait, on s'aperçoit que notre mémoire, c'est du gruyère. C'est des trous que des fois on reconstruit les choses. Donc moi, ça me l'a fait beaucoup avec le livre que je voulais pas écrire. Et je plaisante avec ça dans le livre, puisque je raconte comment le romancier essaye de se souvenir de ce qui s'est passé au Bataclan, et en fait la mémoire est complètement incomplète. Et donc je trouvais ça intéressant. Elle a affaire à des témoins qui commencent à changer de version, qui se rappellent plus. Il y en a même un qui dit mais dans Charlotte Corday il y avait qu'un Joe, il y avait qu'un guitariste, il y avait qu'un musicien. Le même qui lui disait avant ben non j'étais pote avec. Et puis le monde autour d'elle non seulement est de plus en plus présent, mais se détraque. C'est-à-dire que Google va donner deux informations complètement contradictoires et différentes. Les choses vont commencer à se détraquer, les lumières, les terminaux de cartes bancaires. Elle apprend qu'en fait, il se passe des choses dans le pays. Il y a peut-être une révolution qui est en train de... Il y a des grèves, il n'y a plus d'essence. Et donc, tout ça, elle ne savait pas, parce qu'elle était dans sa réalité à elle, dans sa survie à elle. Et je suis désolé, j'espère que tes auditeurs, on leur fait confiance, ce sont de suffisants auditeurs. Parce que j'ai bien conscience de, chers auditeurs, j'en suis désolé, de partir un peu dans tous les sens.
Mais sur les souvenirs,
oui,
d'ailleurs.
Voilà.
Je te
merci,
lis.
Merci Erwan. De recadrer le débat.
Plutôt que de dompter les souvenirs, mieux vaut les tenir à distance, tous, attendre qu'ils se dissolvent, trace biodégradable de notre insignifiant passage.
La vache, c'est moi qui ai écrit ça.
C'est toi qui
as
écrit
beau.
Ça, c'est page 219 dans ton roman.
Ça
très
sonne
précisément.
Bien, non ?
Mais c'est très bon. Hein ? Et puis alors, cette petite phrase que j'aime énormément, puisque alors, notre Jane, elle rencontre des garçons, hein, elle a parfois des relations sexuelles. Alors, il y a quelques pages hyper excitantes, là, avec Jason et Pierre-Alain, les deux garçons qu'elle réussit à faire quand même dire un plan à trois et à faire à ce que les garçons s'excitent entre eux aussi.
Jane, en fait, sa sexualité pour elle, c'est pas quelque chose de... comme on dirait en anglais, je sais pas comment dire, enfin ça c'est no big deal quoi. Elle est un corps, elle est une trajectoire, elle est un corps en mouvement. elle est excitée, elle couche, enfin voilà, elle se pose pas 3000 questions, c'est pas le truc un peu, elle est pas, c'est pas le truc dégoûtant, c'est pas le truc, mais en même temps, c'est pas tabou du tout en fait. Voilà, c'est simple. En même temps, elle réfléchit à. Elle se rappelle de ce que lui ont dit les copines. Elle se rappelle. Elle est pas dupe. Elle est pas dupe des mecs. Elle est pas dupe de la domination masculine. Mais elle trace. Elle s'en fout. Elle se pose pas de questions.
Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui. Et malheureusement, j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui. Elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui.
Les gens de mon temps s'enlacent. Et de ce temps, les gens se lassent. Soudainement, tout s'efface. Au moment de la préface, on se rend débile d'amour un temps. On se défile pourtant avant d'écrire le jour suivant. Mais volant de ville en ville, vivons-nous vraiment? Mais volant de ville en ville, vivons-nous vraiment?
Elles sont déroutantes, les filles d'aujourd'hui. Un petit tour d'amour et puis s'enfuit. Si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui, sais-tu que les garçons le font aussi?
Oui.
Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent.
Tout se détend, se détache au moment de la préface. On se rend débile d'amour un temps. On se défile pourtant.
Wagon Livre, Votre émission littéraire.
Pourquoi les hommes fuient Erwan Larère? C'est notre invité. Son roman est disponible en librairie chez Kidam Éditeur. Alors, il y a aussi, Erwan, c'est plus qu'une ébauche de réflexion sur les humanoïdes. Cela peut surprendre. Jane est témoin d'une agression dans la rue. Et c'est un passage, pour moi, très énigmatique qui te permet d'aborder les cyborgs, les humanoïdes, la transhumanité ou la méta-humanité. Pourquoi avoir voulu évoquer ces aspects qui sont surprenants et tout à fait passionnants en fin de compte?
Mais c'est excitant de se faire surprendre, en fait, de se laisser surprendre. Tu tournes des pages d'un livre et d'un coup, y a quelque chose qui te sort peut-être de ta petite routine de lecture ou du petit chemin de narration dans lequel tu étais, tu vois, et qui te questionne. Et qui, moi, j'écris des romans. Encore une fois, j'écris des romans que j'aimerais lire et en tant que lecteur, j'adore terminer un roman et me dire que je suis pas tout à fait le même que ce que j'étais quand j'ai commencé le roman. Donc j'espère que mes romans ça font ça aussi aux lecteurs, c'est-à-dire que ça peut les gratter, ça peut les interroger, ça peut les enthousiaser, enfin, tu vois, provoquer quelque chose.
Ou exciter ou faire un peu peur aussi.
Oui.
Je te dis très vite, rien ne les différenciera plus des humains sauf à entrer dans le détail. Les éboueurs, boulangers, pilotes d'avion ou de train ne revendiqueront plus, ne se mettront plus en grève. On aura un doute sur un prix Goncourt une année. Certains se méfieront. Les augmenter, les appellera-t-on parfois à voix basse, seulement devant des gens de chair et d'os. En hiver, ils échapperont au virus qui dégénère en arrêt de travail. Plus on paiera, plus on pourra choisir d'options pour son enfant à venir. Certains commenceront à les pourchasser. C'est très drôle ce que tu écris, des milices catho principalement. Les protestants seront plutôt pour l'intelligence artificielle et les modifications génétiques. Puis le débat se tarira. Les médias n'en parleront plus. C'était assez intéressant, effectivement, ces êtres. Et d'ailleurs aussi, puisqu'on parle d'êtres artificiels ou améliorés ou augmentés, il y a aussi la... Ah, j'aimerais que tu nous parles la Maeldol.
Ah oui, mais pour revenir je trouve ça fascinant parce que j'en suis persuadé et je suis pas un tenant des théories du complot, mais il se passe des choses dans des laboratoires. Enfin, on sait que Google, investit énormément d'argent sur l'intelligence artificielle. On sait que ça passionne le mec de Facebook là, je sais plus comment il s'appelle, Mark Zuckerberg, c'est ça? Qui investit. Ils investissent des sommes folles dans ces domaines-là, dans ces questionnements-là.
Mais est-ce pour le bonheur de l'humanité? Ah.
Alors ça, non, je crois pas. Bien sûr que
Marcel
non.
Pagnol dit dans une de ses pièces de théâtre, oui. le progrès, ça commence par la machine à coudre et ça se termine par la bombe atomique.
Oui.
Alors, bien sûr, c'est une formule. Bah,
mais c'est une formule qui fait mouche. Et on sait très bien que c'est comme science sans conscience n'est que ruine de l'âme, quoi. C'est-à-dire à un moment... Il faut que ce soit encadré par le collectif, il faut que ce soit transparent, il faut qu'on sache ce qu'on fait, où on va. Et là, on ne sait pas. Je veux dire, c'est en plus... À une époque, on pouvait embrasser presque l'ensemble des connaissances humaines. Je veux dire, les savants au Moyen-Âge pouvaient embrasser l'ensemble. Ils pouvaient être à la fois des lettrés, ils pouvaient être des médecins, ils pouvaient être... Et aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Les gens sont extrêmement spécialisés. Le savoir est devenu tellement complexe, les sciences tellement complexes qu'aucun cerveau humain ne peut aujourd'hui embrasser l'ensemble de ces problématiques-là. Donc, c'est extrêmement difficile de mettre des garde-fous. Et je crois qu'en tant que romancier, moi, je mets pas de jugement de valeur, je dis pas c'est bien, c'est mal. Effectivement, mon rôle, c'est de dire, paf, tiens lecteur, n'oublie pas que ça existe. Et après, si tu as envie d'aller te renseigner, d'aller lire dans des revues scientifiques, d'aller te poser des questions là-dessus, vas-y. Mais moi, le mettre dans un roman qui a l'air de se passer aujourd'hui, alors que je dis jamais que ça se passe aujourd'hui et maintenant, hein, on ne sait pas quand ça se passe. A priori, c'est de nos jours. Mais
oui, on sait, en tout cas, il y a une phrase qui dit « Tout le monde est devenu dingue depuis les attentats ». Donc c'est très indéfini, mais
oui,
on sait que c'est dans notre...
Voilà. Oui, oui, ça.
Une époque
tout à
moderne.
Fait, tout à fait.
Qui n'est pas spécialement
datée. Mais je trouvais ça et excitant de d'injecter une petite dose comme ça de fantastique et... Voilà, sans qu'on sache vraiment, parce qu'en plus, encore une fois, les choses se détraquent, le monde autour se détraque, on ne sait pas trop. Bon, est-ce que c'est... Je sais, t'as trouvé ça un peu... Non ?
J'ai trouvé, J'ai trouvé ça excitant.
Surprenant.
Ça m'interroge. Je me suis dit, effectivement, on peut ne pas lire cette page. Ça ne nuit pas à l'unité du roman.
Oui, c'est ça,
mais
voilà,
effectivement, c'est un petit caillou que tu mets sur le chemin et on s'y arrête, on le ramasse ou alors on contourne et on continue la lecture sans être perturbé. Mais c'est stimulant intellectuellement. En revanche, ce qui est aussi très intéressant, c'est que Jane a... un pouvoir un peu exceptionnel, c'est qu'elle distingue des auras.
Ouais.
Ça, c'est très intéressant. Et des auras tantôt de couleurs alors très, très sombres qui lui rendent les êtres peu inspirants. Et puis, certains ont de belles auras, surtout quand ils viennent l'épauler et qu'ils l'aident alors qu'elle se retrouve dans une situation périlleuse, notamment où elle manque d'être violée par son ancien colocataire monarchiste d'extrême droite qui la chasse parce qu'elle n'a pas payé le loyer.
Bah, son ancien coloc qui en fait elle s'en rend compte puisque comme on disait tout à l'heure elle ouvre les yeux sur plein de choses et le monde vient à elle. Elle s'était pas rendu compte qu'il était en train de changer en fait. Son coloc, il a changé entre le début du livre et la fin du livre. Il a twisté quoi. Et ça elle le voyait pas. Et tout à coup elle se rend compte effectivement qu'il professe des idées un petit peu inquiétantes, un petit peu extrémistes.
Bon, elle n'a pas de culture politique.
Non, elle s'en fiche complètement. Elle n'a jamais voté. Mais donc, oui, elle ne sait même pas ce que c'est un monarchiste. C'est ça qui est amusant. C'est que c'est le mec qui vient la sauver. Qui vient la sauver complètement incidemment, hein, d'ailleurs. Qui lui apprend ce que c'est qu'un monarchiste. Mais oui, alors, ta question était très intéressante.
C'était par rapport aux auras que vous avez distingué.
Voilà, par rapport aux auras. Ouais. Alors ça vient d'une... C'est une histoire personnelle. Hein. C'est après le Bataclan. Un des premiers salons que je fais après en tant que romancier, j'ai une amie une amie romancière qui s'appelle Marido. Elle me voit arriver et je vois son regard s'écarquiller comme ça et elle me dit mais Erwan, j'ai dit quoi, qu'est-ce qui est-ce que j'ai de la salade entre les dents, est-ce que j'ai oublié de m'habiller. Elle me dit Erwan, mais c'est dingue, ton aura c'est incroyable, elle est bleu, elle vibre. Et donc moi j'étais en train de regarder au-dessus de ma tête, j'ai dit quelle aura, hein, quoi, qu'est-ce que c'est. Et elle m'a dit voilà, quand on s'est rencontrés, t'avais voilà une personnalité, tu t'avais quelque chose de autour de toi qui se passait, mais là c'est devenu complètement incroyable. Et ça m'a beaucoup marqué en fait, c'était très bienveillant et très beau, c'est quelqu'un de très bienveillant et une très belle personne. Et je trouvais ça étonnant. Enfin, c'était vraiment, ça sortait, c'était un cri du cœur. Et on aurait vraiment dit qu'elle me voyait nimbée de quelque chose. Et effectivement, j'ai eu envie de me servir de ça pour parler de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité et de la façon dont on peut, dans ce monde moderne où il faut survivre absolument, se couper de ses émotions. Parce que Jane, elle sait qu'elle a ça, mais elle en veut pas en fait. Elle veut pas de cette espèce de pouvoir de voir les émotions des gens parce que ça l'affecte trop. Et quand ça l'affecte, elle peut plus continuer à avancer comme elle le faisait avant. Donc elle se coupe de ça et effectivement, petit à petit, au fur et à mesure qu'elle part chercher son père comme ça et qu'elle s'ouvre au monde, comme je le redis, elle va faire confiance à ses émotions, elle va apprendre à les accepter et effectivement à accepter cette espèce de don qu'elle a qui est de voir si une personne est bienveillante, gros, je schématise, hein, est bienveillante ou malveillante.
Erwan Larère, Erwan, si tu en es d'accord, on fait une nouvelle étape musicale et puis on se retrouve.
Mais c'est moi qui chante peut-être si tu veux.
Ah, non, ben on pourrait écouter un titre de Charlotte Corday.
She's my baby. Pause musicale.
Et moi, j'écris le temps qui passe.
Et toi, tu vis tout ce qu'on s'est dit.
La nuit, la lune, le feu, l'orage.
Dans les rues sombres, on bat l'ennui.
C'est dans ta tête que tout s'efface.
Les bons moments, mes fautes, ta rage.
Et on se rejoint à la sonnerie.
Crier l'espoir, ma nostalgie. J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. solitude.
Avec lui seulement.
Paradoxe et plénitude.
Avec toi doucement.
Parcourir la ville.
Dans la nuit, le vent.
Allongé, immobile.
Combattre le temps.
Grimper, courir.
Avec toi, fuyant.
Sauter, danser.
Dans la pluie, souvent.
Pleurer, ternir.
Puis partir longtemps.
Fuir l'ennui.
Juste un instant.
J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. Me tracasse
dans le soir, puis dans la nuit.
Puis finalement,
il n'y a que toi, tes souvenirs, ton cœur en manque. Alors tu pleures et tu effaces le temps qui passe, celui qui lasse.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Erwan Larère est l'invité de Wagon Livre aujourd'hui sur Radion. Erwan Larère que nous avons rencontré et enregistré lors de la 12e édition de Livre en Vigne, non loin du Benaton, non loin de la cour de ce bel édifice, ce joyau bourguignon, le château
magnifique.
Du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. Erwan, que tu commences à connaître. Presque ta maison secondaire au mois de septembre.
J'aimerais tellement, mais c'est un lieu magique. Je suis très très attaché aux vieilles pierres, je suis très attaché au patrimoine bâti architectural. D'ailleurs, je restaure un logis médiéval du 15e siècle dans le Poitou pour que ça devienne une résidence d'écriture. Donc forcément, quand on est dans des murs comme ça qui vibrent de présence passée, qui vibrent de l'intelligence des hommes, là, ces pressoirs immenses, il y a ces... Moi, ça me bouleverse, en fait. Ça me bouleverse de voir une fenêtre à meneaux. Ça me bouleverse de voir...
Les poutres, là, c'est immense.
Non, mais les charpentes.
Les charpentes,
je trouve ça... Je comprends pas qu'on construise des lotissements.
Alors justement, on va faire le lien parce que j'ai dit que Jane se déplace en France. Hein, elle est tantôt à Tours. Elle vient, on est content, nous. Elle vient un petit coup dans le Morvan,
ouais.
Où elle retrouve une femme qui a animé un blog.
Ouais. Faut pas tout dire. Hein.
Alors on dit pas. Bon, elle vient dans le Morvan, elle est accueillie chaleureusement par cette femme qui elle-même rencontre des difficultés au niveau de travail, ses déplacements. C'est le Morvan. Et tu as des pages où tu dénonces les choix architecturaux ou immobiliers de certains maires qui, pour jouer la modernité, pour faire rentrer la France dans une ère moderne, ont sacrifié les beautés originelles d'un petit village plein de charme. Là, il y a quelques très belles pages, très engagées aussi.
Oui, enfin c'est...
Ça reste gentil, mais une dénonciation en tout cas.
Oui, alors c'est un personnage qui parle, je crois. Mais oui, que ce soit dans des petits villages comme celui où j'habite, où je restaure ce logis à Mirbeau. on met du parpaing, on met des fenêtres en PVC, on
fait du plexiglas.
Ouais, et on ne restaure pas le patrimoine parce que c'est pas rentable, parce que ça coûte de l'argent, parce que je comprends pas en fait qu'on n'ait pas envie d'être entouré de beau. C'est important d'être entouré de choses belles.
Alors on peut faire neuf,
on le voit ici. Alors on peut faire neuf. Ah mais moi je suis pas contre le neuf à tout craint. Hein. Et effectivement il y a des architectes qui font des choses aujourd'hui magnifiques. Mais donc oui il y a et puis c'est dans les petites villes mais c'est aussi dans les grandes villes. Hein. Si on regardait à Tours, il y avait des Halles Eiffel qui ont été démolies dans les années 70 parce qu'il fallait faire moderne. Donc essayons aussi de c'est aussi un lien avec notre passé, c'est notre histoire aussi, ces vieilles pierres, ouais, je sais pas. Alors ça, oui, c'est un point de vue. Après, on peut me dire, mais non, t'es complètement rétrograde, mon garçon, et un peu de parpaing, un peu de laine de verre, et hop, le tour est joué.
Alors, le Morvan, tu connais ?
Oui, le Morvan, c'est une région que je trouve mais d'une beauté, parce que c'est encore sauvage.
Oui.
T'as l'impression que la nature, c'est encore elle la chef là-bas. C'est elle qui décide, c'est le rythme des saisons. Et puis c'est d'une puissance, d'une beauté. Et puis t'as les odeurs, t'as les... j'adore ce mur en ossoie, je trouve que c'est une ville sublimissime. Ouais, c'est vraiment une région que j'aime beaucoup.
Est-ce que tu veux lire ce passage justement où
je
il y a une
faire.
Harmonie magnifique, l'ermite qui est cet homme réfugié et qui vit de manière très, très sauvage et abrupte.
Oui, je peux le lire.
Et il y a ce très beau chapitre, j'aimerais que tu nous le lises, Erwan, s'il te plaît.
Tu fais partie de la forêt, au même titre que les fourmis rousses et les renards, les lièvres bruns que tu as appris à capturer au collet et les sangliers, les blaireaux et les salamandres tachetés, les pics noirs et les petits duxcopes, au même titre que les chênes, les douglas, les châtaigniers, les érables sycomores. La forêt. À des kilomètres à la ronde, tu en connais les clairières, les taillis, les sentes. Tu sais où trouver les plantes dont tu as besoin pour te soigner ou te nourrir. Tu sais le chant des arbres à chaque saison, celui des oiseaux. À quoi correspond chaque bruissement, chaque froissie, chaque grognement. La forêt. Tu sais te repérer quand elle enfile son uniforme de neige, quand elle dégoutte et glisse pendant l'orage. Tu es la forêt. Ces odeurs intenses quand l'automne la pourrit, ces fragrances légères dans l'été craquelant. Tu portes en toi ces couleurs et ces dégradés. Jamais tu n'avais appartenu au monde avant. Jamais corps et âme, sang et muscles. Jamais tu n'avais écouté les oiseaux, tu maudissais les pigeons comme tous les citadins. Jamais tu n'avais fait attention à l'eau, si précieuse. Tu peux rester des heures au bord d'une rivière ou d'un ruisseau, à en devenir liquide, à en devenir court, remous, à en devenir gardon ou écrevisse, partie du tout. Jamais tu n'avais regardé les fleurs, la forme des feuilles, la grâce dentelée d'une corolle, la fragilité froissée d'un pétale. Tu achetais des bouquets tout près chez le fleuriste. Tu n'as plus peur ni de la forêt ni des éléments, plus peur des animaux. Tu as peur des humains désormais. Tu fréquentes ceux du DEM et des environs, participes un peu à la vie collective, fêtes et marchés. Tu en croises quand tu t'aventures au village pour acheter ce que tu ne peux fabriquer ou échanger. Il t'arrive même, de moins en moins souvent toutefois, de partir plusieurs jours avec ta guitare en bandoulière et de jouer en ville, dans les rues. Mais tu crains à chaque fois d'être contrôlé. Et tout te paraît si absurde là-bas, si insignifiant. Bien vite, tu reviens dans la sérénité protectrice et palpitante de la forêt.
Merci Erwan Larrère pour cette lecture autour de la vie de cet ermite, le Kurt Cobain du Morvan. Je n'en dis pas plus, c'est une formule que j'ai trouvée dans ton roman. Très belle page qui aurait sans doute beaucoup plu à Henri Vincenot.
Ah oui, Henri Vincenot, oui.
Cette harmonie, cette fusion de l'homme avec la nature, c'est entre autres ce que Henri Vincenot.
Je connais assez mal l'œuvre de Vincenot, mais je connais celle d'un autre bourguignon qui s'appelle Gaston Bachelard et qui a écrit aussi des pages magnifiques sur la nature.
Pardon.
Voilà, non, mais j'avais terminé.
Et j'ai une très belle petite phrase que j'ai extraite de ton roman et qui est aussi une réflexion que chacun peut continuer à nourrir, à développer, c'est ne jamais oublier le potentiel aphrodisiaque de la gentillesse. Je trouve cette phrase superbe.
Merci.
Elle est de toi.
Oui, elle est de moi, tiens.
Un petit commentaire. Ne pas oublier le potentiel aphrodisiaque de la gentillesse.
Oui, mais c'est, moi, je je milite pour la gentillesse, pour la bienveillance. On est dans un monde, encore une fois, extrêmement concurrentiel, extrêmement où on monte les gens un peu les uns contre les autres, où il y a 50 candidats pour une place, pour un boulot. Où il faut être performant, il faut réussir, il faut et donc je crois qu'on oublie un peu d'écouter les autres, on oublie d'être bienveillant, on oublie de se parler, de communiquer. Et oui, je milite pour réhabiliter la gentillesse. Je crois que c'est extrêmement important. Alors, c'est une valeur qui est complètement qui paraît cucu, qui paraît complètement désuète, mais c'est tellement agréable d'être gentil les uns avec les autres. Ouais, et c'est vrai que Pour revenir au potentiel aphrodisiaque de la gentillesse, moi, une femme gentille et bienveillante, je vais la trouver beaucoup plus érotique qu'une femme cynique, aussi brillante soit-elle intellectuellement.
Merci Erwan Larère. En tout cas, la gentillesse alors à déceler chez l'autre, à illustrer soi-même autant que faire se peut.
Ah oui, il faut être exemplaire au quotidien.
Et merci Erwan pour cet entretien enregistré au château du Clos de Vougeot le 29 septembre dernier. Pourquoi les hommes fuient, titre de ton dernier très bon roman. Grosse découverte, gros coup de cœur, beaucoup beaucoup de plaisir à te lire et à suivre Jane dans ses pérégrinations et dans son enquête à la recherche du père musicien ou pas. Enfin, il faut chercher, il faut l'accompagner, il faut être un suffisant lecteur. Pourquoi les hommes fuient d'Erwan Larère. Merci Erwan.
Merci.
Et puis je salue toutes celles et tous ceux qui nous auront écoutés aujourd'hui sur Radio Neige. Je leur donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h, et puis l'émission en podcast sur le www.yannickpetit.fr. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir Erwan.
Au revoir Yannick, merci.